Vous êtes sur RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30.
Avec Philippe Robuchon.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce 29 juillet, on aimerait vous parler d'autre chose que du Covid. Malheureusement, les chiffres sont mauvais. Ils sont même très inquiétants dans les dom-tom. La Martinique sera reconfinée à partir de demain. La Guadeloupe est en état d'urgence. Sur l'île de la Réunion, un député, Jean-Hugues Ratenon, demande au gouvernement d'envoyer des renforts au plus vite pour éviter une catastrophe sanitaire. Quant à Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, il lance sur RTL, un nouvel appel à la vaccination. Selon lui, le vaccin est la seule façon de faire vivre la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Dans ce journal également, on va vous raconter la mutinerie qui a eu lieu la nuit dernière dans un centre de rétention près de Roissy. Nerissa Imani vous dira pourquoi le grand projet de réforme d'EDF est remis à plus tard. Et puis bien sûr, un point complet sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Deux nouvelles médailles d'argent ce matin. L'une en aviron pour Claire Beauvais et Laura Tarantola. L'autre pour la judoka Madeleine Malonga en moins de 78 kilos. Et la moisson va peut-être encore s'enrichir pour les Bleus puisque l'équipe de France féminine du fleuret affronte dans les minutes qui viennent la Russie en finale. La question du jour sur RTL.fr, elle concerne les JO. Malgré sa blessure de l'hiver, Teddy Riner sera-t-il champion olympique pour la troisième fois? Je n'ai pas encore les résultats des pourcentages, je vous les donne dans un instant. On attend vos appels au 32-10 juste après 13h dans sa table allongée. Isabelle vous fera rencontrer le papa de Teddy Riner, Moïse. Vos autres rendez-vous d'ici 13h30. Dans un quart d'heure, on va parler d'une nouvelle qui fait du bien, le retour des cartes postales. On les croyait mortes et enterrées à cause des réseaux sociaux. Eh bien non, même les 18-34 ans s'y remettent, paraît-il. On en parlera avec Benoît Martin, président et fondateur de Popcart. Puis à 1h10, la chronique du jour, Christophe Mallet vous emmènera à Sydney, où les Jeux Olympiques de l'an 2000 restent parmi les plus réussis de l'histoire. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On en profite, hein, y a des éclaircies aujourd'hui, mais ça ne va pas durer.
Oui, mais c'est exactement ça. Donc le soleil, en effet, il va être très beau et même généreux en direction de la Méditerranée, alors que partout ailleurs, ça sera un petit peu plus variable, avec des passages nuageux et des éclaircies. Passages nuageux qui seront un petit peu plus nombreux quand même vers les côtes de la Manche et même des Pays de la Loire en remontant vers le Benelux, également vers la Nouvelle-Aquitaine. Mais ça sera quand même une sensation de beau temps. Pour les températures, il faudra compter en général entre 20 et 25 degrés, jusqu'à 30 degrés dans le sud et même fera très chaud en Provence et dans le Gard avec des pointes de 34 à 36 degrés.
C'est noté, on développe tout ça juste avant 13h.
Absolument,
à tout à l'heure.
Merci.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Bonjour Odile Pouget.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Du service santé de RTL, merci d'être en direct avec nous de le début de ce journal. Je le disais, le Covid fait des ravages en cette fin juillet partout, notamment dans les départements d'outre-mer. Clairement, c'est là que les chiffres sont les plus mauvais.
Absolument. Situation très inquiétante, marquée par une progression fulgurante des contaminations. Triplement du nombre de cas, par exemple, d'une semaine sur l'autre en Guadeloupe, du jamais vu lors des vagues précédentes, selon l'Agence régionale de santé. Partout, les taux d'incidence explosent. En Martinique, on est ainsi passé de 280 cas à 995 pour 100 000 habitants en une semaine. On est 5 fois au-dessus du seuil d'alerte. Sur les petites îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est encore pire. On est à plus de 1500 cas pour 100 000 habitants. C'est presque 8 fois plus que la moyenne nationale. Alors, des hausses qui se répercutent sur le nombre d'accueils aux urgences, sur les hospitalisations et les réanimations dans des établissements déjà saturés. À La Réunion, par exemple, sur 103 lits de réanimation, le taux d'occupation est de 95%. Certains jours, il y a seulement un ou deux lits de disponibles pour l'ensemble des urgences vitales. En Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre a une capacité maximale de 70 lits. Un tiers est déjà pris par les patients Covid. Inquiétude d'autant plus forte que dans tous les dom-toms, la couverture vaccinale de la population est extrêmement faible. 15% ont reçu leurs deux doses contre 50% en métropole.
Merci Odile. En métropole, juste pour avoir quelques éléments de comparaison.
Alors, la situation n'est pas très bonne quand même, mais elle est quand même moins grave. Moins grave, avec des courbes de nouvelles contaminations qui sont quand même à la hausse. Et 7 départements ont un taux d'incidence au-dessus de 400 cas pour 100 000 habitants. Champion toute catégorie, c'est la Haute-Corse avec 722, 635 pour les Pyrénées-Orientales, suivi par les Alpes-Maritimes, l'Hérault, l'Aveyron, l'Aude et la Haute-Garonne.
Merci Odile Pouget. Clairement, ces chiffres du Covid en cette fin juillet sont donc en train d'exploser, notamment dans les départements d'outre-mer. On en parle avec notre premier invité, M. Jean-Hugues Ratenon. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Je vous en prie, vous êtes député La France Insoumise de La Réunion. Odile le disait il y a un instant, les chiffres sont très mauvais, notamment les taux d'occupation dans les hôpitaux à Saint-Denis de La Réunion. Et vous lancez, Monsieur Ratenon, un appel au gouvernement pour qu'il fasse quelque chose pour l'île de La Réunion.
Effectivement, c'est vrai que la situation, et vous avez donné les chiffres, vous avez donné des comparaisons, etc. Et votre exposé est très juste, la situation devient extrêmement inquiétante. Alors, en même temps, il faut savoir quand même que les soignants sont sur le pont depuis un bon bout de temps, ils sont épuisés, fatigués, ils ont besoin d'aide et parallèlement, on ne peut pas, comme cela, avec des taux d'occupation de 95%, la situation est beaucoup moindre en métropole puisque je crois que là-bas, on est autour en moyenne de 15% d'occupation de lits en service de réanimation. Mmh. On ne peut pas, comme ça, laisser les choses se faire sans qu'il y ait bouffée d'oxygène. Le point noir aujourd'hui, c'est la solidarité nationale, notamment en mobilisant la réserve sanitaire afin d'aider les territoires d'outre-mer, pas seulement la Réunion.
Qu'est-ce qui vous manque le plus, Monsieur Ratenon ? Ce sont des bras, des places en réa, du matériel médical. Qu'est-ce qui manque le plus, là ?
Tout, puisque de toute façon, les lits sont plus ou moins occupés, donc il faut des lits supplémentaires, le bâtiment n'est pas extensible, donc je pense que nous avons la possibilité de réquisitionner des bâtiments et de les mettre aux normes afin d'ouvrir d'autres lits de réanimation. Pour cela, il faut du matériel. Je crois qu'il y a besoin de matériel et ça, l'État peut le faire rapidement. Et puis, il manque aussi des bras, il manque du personnel parce que ça nécessite quand même des qualifications spécifiques et je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave dans l'Hexagone pour qu'il y ait cette réserve sanitaire, cette mobilisation du personnel à La Réunion mais pas seulement, mais aussi sur les autres territoires.
Monsieur Ratenon, en quelques secondes s'il vous plaît, comment faire remonter le taux de vaccination dans les départements d'outre-mer qui est, Odile Pouget le disait, de 15%.
Comment faire remonter, c'est la confiance. Un mot, la confiance, recréer la confiance. Il y a une rupture de confiance entre la population et les gouvernants, les représentants de l'État. Mais de toute façon, la vague de contamination actuellement qui a lieu à La Réunion, la vaccination ne réglera pas cela. Donc il faut des mesures d'urgence et croire que la seule campagne de vaccination peut régler le problème, c'est totalement irresponsable.
Merci.
La vaccination prendra ses effets dans quelques temps, mais pas dans plusieurs mois, mais pas maintenant. Maintenant, il faut des moyens, notamment matériels et humains.
On a bien compris votre appel, Monsieur Ratenon. Merci. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de l'île de La Réunion. Merci infiniment. Quel que soit le département, en tout cas partout, les autorités lancent des appels à se faire vacciner. Ce sera la seule façon d'avoir cette fameuse immunité collective. Sur RTL, ce matin, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a sans doute voulu réveiller la fibre patriotique en chacun d'entre nous. Pour lui, la vaccination, c'est la meilleure façon d'appliquer la devise de la République, liberté, égalité, fraternité.
Vous savez quelle est la devise de la République française ? Liberté, égalité, fraternité. Ça vous fait penser à quoi ? Ça fait penser au vaccin. Le vaccin, aujourd'hui, il est celui qui nous permet de faire vivre la devise républicaine. Liberté, d'aller et venir, plutôt que de confiner les gens fragiles, plutôt que se confiner, plutôt que de ne pas aller au spectacle, au restaurant, etc. Le vaccin donne cette liberté, égalité. Le virus, c'est le plus inégalitaire. En France, on est pour l'égalité. Le virus, il déteste l'égalité. Le virus, il va chercher les pauvres, il va chercher les gens fragiles, il va chercher les gens déjà malades. Le vaccin, en France, égalité. Gratuit, disponible pour tous. On va vers les gens pour y aller. On est égal devant le vaccin. Puis la fraternité. Pourquoi je dis fraternité ? Parce que c'est ce qui permet, en se vaccinant soi-même, on se protège, bien évidemment. Mais on protège tous les autres. On protège ceux qu'on aime. On protège ceux avec lesquels on veut faire peuple. Liberté, égalité, fraternité.
Voilà l'appel de Martin Hirsch, le directeur de l'APHP, invité de Stéphane Carpentier ce matin sur RTL. Il est 12h40, une mutinerie la nuit dernière dans un centre de rétention administrative, pas loin de Roissy, précisément au Ménil-Amelot, en Seine-et-Marne. C'est un centre qui accueille des étrangers sur le point d'être expulsés. Trois d'entre eux sont parvenus à s'échapper, Guillaume Chiez.
Oui, une mutinerie qui a débuté sur les coups de 23h hier soir. Immédiatement, plus de 100 policiers venus de toute la région sont appelés en renfort. À leur arrivée, des personnes se trouvent sur le toit du centre de rétention. D'autres sont cachés dans des buissons alentours. Retour au calme peu après minuit. Deux hommes sont légèrement blessés à la tête. Mais au comptage, sur les 146 personnes retenues, trois manquent à l'appel. Un Albanais, un Marocain et un Tunisien, âgés respectivement de 22, 27 et 30 ans. Tous les trois étaient sortis de prison et placés au Ménil-Amelot en attente de leur expulsion vers leur pays d'origine. Ils sont activement recherchés. Quant à la raison de cette mutinerie, il est trop tôt pour la définir clairement. Mais selon plusieurs policiers, il pourrait tout simplement s'agir d'une diversion pour permettre l'évasion de certaines personnes retenues dans ce centre.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Que s'est-il passé exactement à la chapelle sous Chaux, dans le territoire de Belfort ? Un couple a été retrouvé mort, tué par balle, ainsi que leurs deux chiens. Les victimes avaient 58 et 64 ans. Il pourrait s'agir d'un féminicide suivi d'un suicide. L'enquête devra le confirmer. Elle a été confiée à la gendarmerie. Il est 12h42 sur RTL. Une petite pause. Dans un instant, on va vous expliquer pourquoi le grand projet de réforme d'EDF ne se fera pas avant la fin du quinquennat.
D'alcool. RTL Midi
avec Philippe Robuchon.
Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a regretté ce matin que la réforme de son groupe ne puisse pas se faire dans les mois qui viennent. C'est le gouvernement, en effet, qui l'a annoncé. Le projet, d'abord baptisé Hercule, puis Grand EDF, ce projet va être reporté au-delà de l'élection présidentielle. Bonjour Nerissa Emani.
Bonjour.
Pourquoi ce report ?
Eh bien, d'après le gouvernement, les désaccords avec la Commission européenne sont trop nombreux et c'est pourquoi l'idée d'un projet de loi proposé avant la fin du quinquennat a été mise en pause. Et pourtant, ce projet Hercule, ça devait être la grande réforme énergétique d'Emmanuel Macron. L'idée, c'est de créer trois branches au sein d'EDF, bleu pour le nucléaire, vert pour les activités de distribution d'électricité et azur pour les barrages hydroélectriques. Cela aurait permis d'investir dans les énergies renouvelables et de renouveler le parc nucléaire français, car le groupe est endetté. Problème, l'Europe, elle, souhaite une vraie séparation entre les trois entités. Le projet, donc, ne plaît pas du tout aux syndicats qui craignent une privatisation et un éclatement du groupe. C'est pourquoi l'Europe parle non pas de désaccord, mais d'une décision politique d'Emmanuel Macron qui aurait préféré reporter le projet.
Explication signée Nerissa Emani. Merci. Vous vous souvenez sans doute des mésaventures de l'Ever Given, cette énorme porte-conteneur qui avait bloqué le canal de Suez au mois de mars dernier. Eh bien, figurez-vous qu'il est enfin arrivé à bon port au terme de son voyage, le port néerlandais de Rotterdam.
RTL à Tokyo.
Et de 10, 10 médailles pour le camp français aux Jeux Olympiques de Tokyo après l'argent ce matin pour le tandem femme Beauvais-Tarantola en aviron. Autre médaille d'argent il y a moins d'une heure pour la judoka Madeleine Malonga en moins de 78 kilos. Isabelle Langer, vous êtes en direct avec nous. Madeleine, on l'a vu littéralement craquer hein, après sa défaite face à la japonaise Amada.
Oui, les larmes de Madeleine Malonga. Cette médaille d'argent a un goût amer pour la numéro 1 mondiale, mais aujourd'hui, elle a été battue par plus forte qu'elle. La japonaise Shori Amada a très rapidement pris le dessus, notamment sur le travail au sol, son point fort, et en 1 minute 10, c'en était fini. Victoire sur Ippon, c'est une revanche pour la Nippone, qui avait été battue par Malonga ici au Budokan lors des Mondiaux 2019. Écoutez la déception de la française au micro de nos confrères de France Télévisions.
Je suis déçue, vraiment, je suis déçue, mais je réaliserai peut-être après que c'est une belle médaille, mais je voulais tellement le gagner, quoi. C'est des longues années de travail et on sait que ça se représente, ça se présente peut-être qu'une fois dans sa vie, donc c'est important d'être là. Je voulais tellement ramener cette médaille d'or pour le club, le SBM, pour la ville de Blanménil qui me soutient, qui est à fond. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus.
Mais oui, cette médaille, Madeleine Malonga l'a dédiée effectivement à son club, l'étoile sportive du Blanc-Ménil, à son entraîneur Alain Schmitt, resté en France et avec qui elle travaille depuis 2016, mais aussi à sa famille, bien sûr. Alors oui, il faudra certainement un peu de temps à la jeune femme de 27 ans pour apprécier ce titre de vice-championne olympique. Elle va d'ailleurs s'offrir quelques jours de vacances, mais pas trop longtemps, nous a-t-elle dit, parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire, loin des tatamis. Elle va aussi réfléchir à son avenir, savoir si elle reprend ses études d'infirmière qu'elle avait mis entre parenthèses pour préparer ses Jeux de Tokyo, car elle a déjà un autre objectif en tête et pas n'importe lequel, les JO à Paris en 2024.
Isabelle Langer en direct de Tokyo, puis elle peut être fière d'elle, Madeleine Malonga, parce que l'argent à Tokyo, c'est quand même pas rien. 10 médailles, je vous le disais, et bientôt 11, puisque d'ici quelques minutes, les fleurettistes françaises seront en finale. Nicolas Burnand, bonjour. Le trio Tibus, Blas, Ranvier va tenter de décrocher l'or face à la Russie.
Oui, les tricolores entrent en piste à 12h55. Les Russes concourent sous pavillon neutre. Un trio héroïque en demi-finale face aux Italiennes. Il sera Tibus, l'ultime relayeuse qui a délivré les Bleus, l'a emporté de justesse, 45 touches à 43. La Française mènera d'ailleurs le premier relais de cette finale. Elle a soif de revanche, passée à côté de son épreuve individuelle, éliminée en huitième de finale. Médaille assurée hein, pour les Françaises, mais elles devront se battre pour décrocher le sacre olympique. Et puis, je vais vous faire un peu réviser, Philippe, c'est la première finale pour l'équipe féminine, attention, de fleuret depuis les Jeux de Montréal en
96.
Je vous aide. 96, parfait. L'équipe d'escrime avait alors rapporté l'argent, bravo. L'or à Moscou en 80 et le bronze à Los Angeles, c'était en 1984.
Ça, j'aurais pas dit. Merci Nicolas Burnand. À retenir aussi de la matinée à Tokyo, l'élimination du tennisman Hugo Humbert. Il a été stoppé en quart de finale par le russe Khachanov. En natation, pas de médaille, mais superbe quatrième place pour le jeune nageur français de 19 ans, Maxime Grousset, en finale du 100 mètres nage libre. En rugby à 7, l'équipe de France féminine a facilement battu le Brésil, 40 à 5. Enfin, une 12e médaille tricolore est d'ores et déjà assurée pour Charline Picon en planche à voile. Elle s'est qualifiée pour la régate finale qui aura lieu samedi. Puis je vous parlais de la question du jour sur RTL.fr. Malgré sa blessure de l'hiver, Teddy Riner sera-t-il champion olympique pour la troisième fois? Vous dites oui à 36%, non à 36%. On attend vos appels au 3210 sur ce sujet, comme sur tous les autres. Juste après 13h, je vous rappelle que dans sa table allongée, Isabelle vous fera rencontrer le papa de Teddy Riner, Moïse. Une petite pause, dans un instant, on vous envoie une carte postale.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
D'alcool. RTL Midi.
Avec Philippe Robuchon.
On croyait que c'était ringard, que la pratique avait disparu. Envoyer une carte postale pendant les vacances à ceux qu'on aime, eh bien, pas du tout. Figurez-vous que malgré les réseaux sociaux, malgré les SMS et autres WhatsApp, eh bien, les cartes postales seraient en train de faire leur retour. Bonjour Benoît Martin.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous dans RTL Midi. Vous êtes le président fondateur de Popcart. On va pas se cacher la vérité, hein. Les chiffres ne sont pas aussi bons qu'il y a 20 ou 30 ans, mais il y a un petit espoir, il y a un petit frémissement, notamment grâce aux jeunes.
Écoutez, absolument. Effectivement, on a fait une étude récemment et 7 Français sur 10 envoient des cartes postales à leurs proches pendant les vacances. Donc c'est quand même un chiffre assez important pour l'ensemble des Français. Et quand on regarde, effectivement, ben, les jeunes sont particulièrement friands de l'envoi de cartes postales. Et donc c'est une tradition qui persiste. Et effectivement, il y a une raison assez simple à ça. C'est qu'en fait, recevoir une carte postale, ça fait toujours plaisir, et surtout quand elle est personnalisée.
Et puis c'est tellement moins banal qu'un SMS ou un message WhatsApp ou autre, ça change.
Mais par rapport aux échanges très rapides qui peuvent se faire via les réseaux sociaux, via WhatsApp, aujourd'hui, une carte postale, c'est une carte papier. Et qui dit une carte papier, c'est en plus une carte qu'on achète. Et donc, cette carte, elle va rester sur le bureau, sur le frigo. Et donc, elle est beaucoup plus impliquante pour la personne qui envoie la carte postale. Et elle fait tellement plus plaisir à la personne qui la reçoit, parce que justement, elle va rester là où les les échanges via les réseaux sociaux se chassent très rapidement les uns les autres, et une photo en chasse une autre, et il n'y a rien qui reste du souvenir de cette carte postale.
Oui, et puis quand on regarde son frigo toute l'année, on voyage un petit peu, c'est déjà pas mal dans sa cuisine. Je vais vous poser une colle, monsieur. Est-ce que vous savez dans quelle région on envoie le plus de cartes postales ?
Alors,
pardon, je l'avais pas prévu celle-là.
Alors c'est une bonne colle. Alors je ne sais pas quelle est la région qui envoie le plus de cartes postales, mais c'est effectivement une pratique qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire. Évidemment, les zones en été, les zones balnéaires,
bien sûr,
sur la Méditerranée, sur l'Atlantique, sont des régions très prisées pour envoyer des cartes postales. Et Paris, qui reste une ville très touristique qu'on visite, va être aussi une région d'où on envoie pas mal de cartes postales.
Merci Benoît Martin. Voilà, on voulait faire ce petit clin d'œil qui nous fait plaisir. L'envoi des cartes postales, ça repart, pas comme en 40, mais enfin ça repart un peu grâce aux jeunes. Merci d'avoir été sur RTL avec nous.
Merci, au revoir.
RTL, les jeux sont faits.
Les jeux sont faits.
Et oui, souvenez-vous, c'était du 15 septembre au 1er octobre de l'an 2000. Les Jeux Olympiques se déroulaient à Sydney sur 36 sites. La plus grande partie des épreuves, ainsi que le village des athlètes, était concentré dans le parc olympique de Homebush Bay, près du centre-ville de Sydney. Sydney qui d'ailleurs a bien profité du passage des athlètes et qui depuis a pris une dimension internationale grâce à ses JO. Christophe Mallet.
C'est avec une bonne dose de nostalgie que les Australiens se retournent vers leurs Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Et tout le monde ici se souvient des mots du président du Comité international olympique en 1993, là où tout avait commencé.
The winner is Sydney, Australia.
Depuis, Sydney est devenue une ville à envergure internationale, comme nous l'explique Mike Tomolaris. Il est commentateur sportif à la télévision nationale australienne, une sorte de Gérard Rolls local.
Ça a juste transformé la ville. Sydney était une ville globale avant les JO. Mais maintenant, je pense qu'on est au niveau de New York, Londres ou Paris. Les JO ont placé la ville dans une autre stratosphère.
Les JO de Sydney resteront de l'avis des spécialistes comme les meilleures Olympiades organisées jusque-là. Et une fois la page olympique tournée et la facture de 7 millions d'euros payée, la ville est devenue un vrai hub touristique et attire en temps normal plus de 4 millions de visiteurs par an. Du côté infrastructure, il reste 9 installations toujours en activité aujourd'hui, dont le stade. Il est emblématique de la renaissance de certains quartiers de la ville. Sa capacité a été réduite de 30% pour s'accommoder des foules australiennes. Malgré cela, le quartier de Homebush, où il se trouve, est toujours un peu mal aimé des certains Sydneysiders. Une sorte de nouvelle addition qui n'a pas encore gagné ses galons de quartier à part entière, même plus de 20 ans après. On s'y rend principalement en train et c'est en chemin que l'on rencontre Terry, un quinquagénaire un peu nostalgique de l'épopée olympique de Sydney.
C'était un très bel endroit, de très beaux moments. Tout le monde était plus content, plus avenant. Malheureusement, depuis, Sydney est devenue plus égocentrique, je trouve. C'est un peu triste à voir, car nous avons eu de si beaux moments en 2000.
On sort de la gare et on traverse juste la rue pour se retrouver devant le stade en lui-même. Nous y rencontrons Kate, une habitante du quartier, elle plutôt contente de l'héritage olympique de la ville.
Oui, moi je pense qu'il y a plus d'espace maintenant avec des parcs qui sont dédiés au sport et pas simplement pour les champions, les élites olympiques. Ça a permis aux clubs locaux d'investir dans leur avenir et de renforcer le sport.
Mais peut-être plus que dans ces murs, c'est dans la tête que les JO de Sydney auront changé les choses en Australie. On se souvient à l'époque de l'effort considérable fait pour inclure les cultures aborigènes au sein même de l'aventure olympique. Un effort qui, selon Carl, athlète aborigène lui-même, a payé.
J'ai de super souvenirs aux Jeux de Sydney. Quand j'étais en lice, il y avait tellement de communautés qui me regardaient. Et je suis content parce que depuis, il y a beaucoup plus de discussions autour de l'inclusion. Les aborigènes australiens ont besoin de ces histoires positives.
Aujourd'hui, l'Australie s'apprête à revivre l'émotion olympique. Brisbane venant d'être sélectionnée comme ville hôte pour l'Olympiade de 2032. et certains volontaires des JO de Sydney en l'an 2000 se prennent même à rêver d'y participer.
J'ai vu l'annonce et je voulais encore une fois être volontaire, mais j'aurai 100 ans.
La ferveur olympique australienne se démontre donc au-delà des résultats ou des tableaux de médailles. Avec l'addition de Brisbane 2032, cela fera 3 Olympiades en moins de 80 ans sur le sol australien. L'Australie a donc bien un cœur olympique.
Christophe Mallet à Sydney. J'en profite pour corriger une petite erreur. Tout à l'heure, on a parlé des JO de Montréal en 1996. On s'est trompé de 20 ans. C'était en 1976, bien sûr. Dans un instant, la météo complète de Claire Delorme.
Entendre. RTL Midi.
La météo Claire Delorme, le temps étant à peu près favorable ce jeudi, on va en profiter. Que nous conseillez-vous comme activité?
Moi je conseille surtout des sports de plein air, il faut en profiter car en effet c'est plutôt calme et sec et en plus il ne fait pas trop chaud. Donc on est très loin justement de l'insolation, de la déshydratation, profitez-en. Donc dans le détail pour cet après-midi, le soleil va régner en maître encore pour la région méditerranéenne, ça sera un petit peu plus variable en revanche partout ailleurs avec une alternance de passages nuageux, d'éclaircies. Les nuages seront d'ailleurs plus nombreux pour les régions au nord de la Loire avec quelques petites averses locales et passagères près des côtes de la Manche. Ça sera aussi un petit peu couvert au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et dans le courant de la soirée, quelques nuages pourraient bourgeonner apportant à nouveau des averses pour les reliefs du Massif central et de la région Rhône-Alpes. Concernant les températures, elles sont relativement stationnaires. Elles sont en légère hausse par contre dans le sud-ouest. Il faudra compter entre 20 à 25 degrés en général, 25 à 30 degrés dans le sud et des pointes à plus de 34 voire 36 degrés. Là encore pour la Méditerranée, à savoir la Provence ou encore pour le Gard.
Un tout petit mot pour demain?
Oui, pour demain, une nouvelle perturbation va tout simplement arriver sur la France. Elle va apporter des pluies faibles sur la quasi-totalité des régions et puis le retour des averses orageuses du sud-ouest en remontant là encore vers le Massif central et les Alpes et la région Rhône-Alpes. Donc moralité, avec ces températures fraîches, l'ambiance est davantage à l'automne plutôt qu'à l'été.
On l'aura constaté. Merci Claire. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Philippe Robuchon.
Avant le rappel des titres, un petit avant-goût de ce qui vous attend dans Les auditeurs ont la parole. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne. Alors la question du jour tout à l'heure, c'était Teddy Riner, 3e titre olympique. Vous y croyez ou pas?
Oui.
Ça sera pour la nuit prochaine. Vous pensez qu'il peut y arriver?
Ah bien sûr, il peut arriver.
Bien,
il a les capacités pour.
Il a les capacités, le physique, le mental pour. On va en parler avec vous tout à l'heure et avec les auditeurs. En attendant les titres de l'actualité de ce jeudi, les mauvais chiffres du Covid d'abord est très inquiétant même dans les territoires et départements d'outre-mer. La Martinique sera reconfinée à partir de demain, la Guadeloupe est en état d'urgence. Sur l'île de la Réunion, des élus demandent déjà au gouvernement d'envoyer des renforts au plus vite pour éviter une catastrophe sanitaire. Une mutinerie la nuit dernière dans un centre de rétention près de Roissy. 3 étrangers se sont évadés. Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, regrette l'annonce du gouvernement hier soir. Le grand projet de réforme d'EDF est remis à plus tard. Et puis bien sûr, les JO, 2 nouvelles médailles d'argent ce matin, l'une en aviron pour Claire Beauvais et Laura Tarantola, l'autre pour la judoka Madeleine Malonga en moins de 78 kilos, c'est du judo. La moisson va peut-être encore s'enrichir dans les minutes qui viennent, puisque l'équipe de France féminine du fleuret affronte la Russie.
La table allongée sur RTL.
Tous les jours, pendant ces JO de Tokyo, Isabelle Langer vous propose de découvrir les champions français racontés par leurs parents. On va feuilleter le livre de leur vie et découvrir des petits secrets, des anecdotes. Vous saurez tout de ceux qui ont pour objectif de décrocher une médaille. Dans ce 6e épisode, Isabelle a rencontré Moïse, le papa de Teddy Riner. Teddy qui tentera demain de remporter un 3e titre olympique.
Chapitre 1, Petit casse-cou.
Moïse, Teddy est né le 7 avril 1989. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là?
Tout à fait, oui. Quel parent qui ne se souvient pas du jour de la naissance de son fils? C'était un beau jour.
Beau bébé?
3,9 kg.
Est-ce que quand il était petit, il faisait des bêtises?
Oui, se cacher en dessous du lit, se cacher dans les armoires, les batailles de Peluchon, de vouloir monter dans les arbres quand on arrive aux Antilles, de vouloir faire des plongeons là où il ne fallait pas en faire. Ben oui, il faut passer par là, je crois. C'est de l'apprentissage.
Chapitre 2, l'école avant tout.
Il aimait l'école ?
L'école, pas plus qu'un autre. Qui c'est qui aime l'école en fait ? Personne. Mais bon, les leçons qu'on demandait, ben, moi j'étais assez assidu à ça. Donc les leçons étaient apprises. Et puis Teddy, il était un petit peu matheux. Donc il aimait compter, il aimait déchiffrer, comprendre les formules. Ouais, il apprenait ça bien.
Les études d'ailleurs, c'est primordial pour vous. Lorsqu'il était à Rouen, vous faisiez la navette tous les soirs pour le faire étudier ?
C'est un peu normal. Moi, je voyais venir le truc un peu où les enfants étaient dans un pôle, où on rassurait les parents au départ de dire que tout le monde est bien loti, ce sera les cours et ils vont apprendre. Mais moi, je voyais venir qu'on demandait aux enfants d'aller faire du judo et puis c'était le drapeau qu'il fallait agiter. Moi, j'étais dans l'optique des deux. Et puis, vous savez, j'en avais tellement suivi des sportifs où je voyais qu'ils avaient de grandes carrières et puis qu'ils ne savaient pas déchiffrer de lettres, de mots. Donc moi, ma priorité, c'était d'aller à l'école, faire du sport en même temps. Je tenais beaucoup à ça.
Chapitre 3, danse classique.
Qu'est-ce qu'il a fait comme premier sport ?
Il y avait un espèce de grand bâtiment où les enfants faisaient tous les sports.
Il aurait même fait de la danse ?
Ah oui, moderne jazz, classique. Il a tout essayé, quoi. Il y avait section judo, section tennis, natation, grimper, basket. Il y avait tout là-dedans.
Quand est-ce qu'il vient au judo ?
Il a commencé à faire du judo, là, il était dans un club, encadré, et commençait à avoir quelques médailles. Mais en même temps, il y avait le foot, il aimait ça. Et il jouait très bien. Mais le truc en est, c'est que les notes ne suivaient pas à ce moment. Donc j'ai demandé à ce qu'on choisisse entre judo et foot. Mais il a regretté beaucoup de ne pas faire du foot. Mais je ne pouvais pas laisser faire du foot, faire du judo, et en même temps que l'école ne suivait pas. Ça, c'était pas dans mon caractère. Donc à partir de là, c'est consacré carrément à ce sport-là.
Chapitre 4, la face cachée de Teddy.
C'est quoi sa plus grande qualité ?
Bah, c'est quelqu'un de super gentil qui veut aider tout le temps. Est-ce qu'il aide les bonnes personnes ou les mauvaises ? Je ne saurais pas dire. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne se prend pas la tête, quoi, qui est cool, tranquille.
Il est deux fois papa. Comment il est comme papa ?
Je l'ai observé un peu. Hein. C'est marrant parce que je trouve qu'il est un peu, je dirais, plus cool que moi avec ses enfants. J'étais un peu plus rigoureux, ouais, je le reconnais.
Il est un peu papa gâteau.
Oui, moi je trouve, mais c'est son droit, hein. C'est comme il veut. Mais après, c'est à lui de voir comment est-ce qu'il règle les choses.
Épilogue.
Moïse, vous n'êtes pas à Tokyo, c'est un regret de ne pas l'accompagner sur ses jeux.
Oui, tout à fait, parce qu'on l'a toujours accompagné. Bon, il a grandi aussi, il a mûri, maintenant c'est à lui de se débrouiller, il a sa femme, il a ses enfants. Mais être là sans aucun de tout cela, c'est dur.
Il est double champion olympique, il veut entrer encore un peu plus dans la légende, au pays du judo en plus. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Bah, vous savez, c'est déjà dit, hein. Il n'y a que le travail qui paye. Ça, il le sait. Deuxième chose, j'aime pas trop le dire, mais c'est comme ça. Teddy, il est guadeloupéen, il est noir, il est français, il a appris le judo, il a compris comment est-ce que ça se fait. Il va se retrouver confronté à tout un peuple. C'est leur culture, c'est chez eux, et remporter cette médaille d'or, c'est un enjeu colossal. C'est une forte pression, c'est une forte détermination aussi, mais je connais son caractère, je vois là le travail qu'il déploie, l'énergie qu'il met, ben je ne peux que lui dire merde.
Voilà Isabelle Langer avec une mise en onde de Spencer Clairfeuille. Une chronique à retrouver sur notre site internet rtl.fr avec en prime des photos d'enfance des champions. On va repartir tout de suite à Tokyo, les JO, Nicolas Burnand en direct. La finale par équipe du Fleuret Dames vient de commencer, donc l'or ou l'argent pour la France.
Oui, c'est mal parti pour les Françaises. Le second relais a commencé sur la piste de Tokyo, menée par la Française Anita Blas. Déjà 9 touches à 4, 9 touches pour la Russe, 4 pour la France. Lors du premier assaut, la tricolore Issaora Tibus, vice-championne du monde du fleuret en 2018, a perdu son combat. Mais il en reste encore 7 d'assaut pour essayer de remonter la pente.
On croise les doigts. Merci Nicolas Burnand en direct de Tokyo. Je vous rappelle qu'à 18h30 sur RTL, on refera les jeux avec ce soir Christian Olivier et Jean-Michel Rascol.